La 16e édition du festival Tour de Chauffe va se clôturer à la Maison Folie Hospice d'Avray à Tourcoing. Ce festival, sous l'impulsion du réseau des fabriques culturelles de la métropole européenne de Lille, met en lumière la pratique amateur dans le secteur des musiques actuelles. L'occasion pour ces 14 lauréats en devenir de partager la scène avec 9 artistes confirmés en live session et face à un public. Rencontre avec l'une des têtes d'affiche de ce festival Tour de Chauffe, elle nous dévoile son parcours.
Je suis Léna Deluxe, donc je suis une chanteuse, autrice, compositrice, productrice qui réside dans la région Hauts-de-France. Voilà, je suis d'origine roubaisienne et du coup je fais de la musique plutôt rock, pop, aux influences un peu 60s, psyché, et là dernièrement sur le dernier album, un peu tropical. Voilà.
Justement, d'où te sont venues ces inspirations? Car entre le premier et le deuxième album, il y a une évolution, des changements d'ambiance, de son. C'est un petit mélange de toutes ces influences?
Moi, j'ai beaucoup écouté beaucoup de groupes comme le Jefferson Airplane ou les Doors ou même les Beatles ou le Velvet Underground. J'étais pas mal bercée par ces styles-là et donc ça reste quand même la musique que j'écoute le plus, on va dire. Ou des groupes plus récents, mais j'aime bien ce genre d'influence au niveau du son surtout. Et là, le côté tropical, c'est plus parce que ce dernier album-là, qui va sortir dans quelques mois, il a été fait en Indonésie avec des musiciens de là-bas. Donc forcément, il y a carrément une nouvelle touche qui s'est ajoutée à ma propre touche, avec des petites influences un peu de musique indonésienne traditionnelle et un petit côté aussi tropical, quoi.
Tu as à ton actif deux albums. Tout d'abord, on va aborder le premier, Mirror for Heroes, sorti en 2015 sous la houlette du producteur new-yorkais Henry Hirsch. Comment ce projet-là est né?
Oui, alors, ce premier album, ça a été vraiment le fruit d'un travail sur plusieurs années où j'ai rencontré du coup ce producteur alors que j'étais moi-même musicienne pour une autre chanteuse, Brisa Rocher, qui est américaine, et j'ai enregistré un album là-bas dans son studio à New York en tant que musicienne, et c'est comme ça que je l'ai connu, je lui ai fait écouter mes démos, tout ça, et en fait du coup il m'a proposé de me produire, et c'est vrai que c'était un album, c'était une chance assez incroyable, parce que c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec Lenny Kravitz, qui a travaillé avec Mick Jagger, Madonna. Et du coup, il voulait que je fasse comme il avait fait avec Lenny Kravitz et que je joue de tous les instruments sur l'album. Et donc, ça demandait pas mal de préparation de ma part avant d'y aller. Et c'est vrai que ça a été vraiment... c'est un album qui est particulier au niveau du son parce que ça a été enregistré dans une église sur des bandes complètement analogiques. Alors que le deuxième album, il est plus différent au niveau de la production puisque ça n'a pas été enregistré du tout. On va dire que c'est plutôt l'opposé de conditions d'enregistrement. Mais là, vraiment, j'ai une chance incroyable. Il a été un peu comme un mentor et d'avoir un matériel à ma disposition qui était quand même un studio, vraiment un grand studio quoi, avec un grand producteur. Donc voilà, et ces 10 titres qui sont vraiment... les premiers morceaux en fait que j'ai composés quand j'ai démarré le projet quoi.
Alors parmi ces 10 pistes qui composent ce premier album, plusieurs titres ont rayonné soit dans des séries TV ou documentaires comme Kill the King ou Nowhere to Go ou encore Lady Bird. Quelle satisfaction ou reconnaissance t'en as eu de produire des titres comme ça et de te dire « Waouh, je vais être écoutée par autant de monde », ça t'apporte quoi? Tu en ressors comment?
C'est vrai que ça apporte une... Je sais que après les diffusions sur Netflix, c'était sur HBO, j'ai vu tout de suite qu'il y a eu beaucoup de Shazam, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté le morceau et qui ont aimé et du coup qui ont voulu savoir qui l'avait fait. Et ça m'a permis d'élargir le public à quelque chose d'un petit peu plus mondial parce qu'il y avait beaucoup plus d'écoute aux États-Unis et au Japon, par exemple. Et ça permet toujours d'élargir un petit peu le public. C'est vraiment une super exposition de pouvoir avoir sa musique sur des scènes de films ou de séries comme ça. Et en plus, c'est vraiment la musique de film, c'est vraiment un univers que j'aime. Justement, les chansons de ce premier album, pour moi, c'était très. J'imaginais ça de manière assez cinématographique et très visuelle, quoi. Au niveau de. Quand j'ai composé des morceaux, j'avais des images en tête. Donc, du coup, de voir ces morceaux sur des scènes qui, en plus, collent assez bien à la musique. Parce que là, par exemple, Nowhere to Go, il est sur une série qui s'appelle Disparu à jamais. Et c'est vraiment une scène qui est assez longue et où il y a une attente et une tension à l'image. Et en fait, il n'y a quasiment pas de dialogue, il n'y a quasiment que ma musique en presque 1 minute 50. Du coup, c'est vrai que c'était une grande chance parce qu'en plus d'être sur une série, le morceau était vraiment mis en valeur dans la scène. On entend vraiment super bien le morceau, ce qui n'est pas toujours le cas, des fois c'est juste en fond. Donc pour moi, c'est vrai que ça a été une super opportunité et une belle reconnaissance aussi pour cet album-là.
Après cette fabuleuse expérience, là tu vas sortir ton deuxième album, Santai, avec des sonorités plus tropicales mais qui gardent cette empreinte pop et des années 60. Tu peux nous en parler également car là aussi c'est atypique ces rencontres.
Oui, en fait, j'étais en voyage donc en Indonésie et j'ai rencontré un guitariste qui était un peu comme moi, fan des années 60. On avait vraiment les mêmes goûts et puis on a jammé un petit peu et vraiment il y a eu un feeling qui s'est passé comme il se passe rarement quoi avec des musiciens. Et du coup ben je quelques mois plus tard je lui ai proposé de revenir et de faire un album ensemble en fait. Et donc ça s'est fait assez vite sans préparation. Je suis revenue comme ça et sur place on a trouvé des musiciens, on a trouvé un lieu pour créer. On avait un temps imparti quand même assez court puisque j'avais mon visa, j'avais réussi à le renouveler, mais donc c'était un mois et demi pour composer et enregistrer des morceaux, quoi. Donc c'était hyper court avec des musiciens que je ne connais pas et qui ne parlaient pas. Il y avait Ipin, le guitariste, qui lui parlait bien anglais, mais les autres parlaient très peu anglais. Ils n'ont pas du tout la même approche de composition que moi. Enfin voilà, c'était hyper différent. Il y avait parfois des incompréhensions quand même, mais aussi des moments magiques. Voilà, on a essayé de capturer ce moment de manière très rapide. Donc forcément, c'est pas du tout la même prod. Au contraire, c'était voilà, on a essayé de trouver des guitares, des basses sur place. On a fait un peu avec ce qu'on trouvait sur place, quoi, sans budget. Voilà, c'était beaucoup plus roots, on va dire. Mais par contre, on a quand même enregistré dans un studio qui est assez reconnu là-bas. Et après, j'ai fini donc tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire en France. J'ai enregistré les voix en France, j'ai continué les arrangements en France et je les ai fait mixer et masteriser en France. Voilà.
Alors le 22 octobre, tu seras en clôture du festival Tour de Chauffe à l'hospice d'Avray de Tourcoing. Quel va être ton choix d'interprétation? Plutôt le premier ou le second album qui lui comporte 8 pistes avec notamment en haut des cimes, ou alors ça va être un mix des deux?
Bah, on va jouer quasiment tous les titres du nouvel album, plus des titres du premier, parce que du coup, comme on est en tête d'affiche, bah, on va essayer de jouer un peu plus longtemps. Donc, comme c'est un album assez court, 8 titres, après, on les a quand même vachement réarrangés sur scène. Là, du coup, avec un nouveau groupe que j'ai rencontré il y a quelques mois. Et on va un peu jouer un peu des deux, quoi. Il y aura quand même, on va dire, les singles de l'album précédent. Je pense enfin voilà, King the King, on va le jouer, Ink, Lady Bird,
Donc deux albums aux sonorités qui se regroupent, mais qui évoluent au fil du temps suivant tes rencontres, dans lequel tu chantes et composes aussi bien en français qu'en anglais. Quelle est ta préférence ou alors facilité dans ces choix?
J'ai préféré écrire en français parce que c'est ma langue natale et du coup, on va dire qu'en anglais, je maîtrise quand même bien l'anglais et j'ai toujours beaucoup travaillé mes textes pour que mes textes ne paraissent pas pour des textes de française qui écrit en anglais. Enfin, j'ai vraiment travaillé énormément toutes les petites subtilités, tout ça, mais parfois il y a des choses qui m'échappent parce que c'est pas ma langue natale et du coup, je trouvais ça plus facile et assez satisfaisant aussi. En français, le fait qu'on puisse comprendre aussi, parce que en anglais, je travaille beaucoup mes textes, mais finalement, en France, les gens comprennent pas forcément, sauf si après ils peuvent le lire, mais voilà, en live. Mais par contre, je préfère chanter en anglais parce que je trouve que c'est une langue plus appropriée pour avoir des voix plus puissantes, on va dire. Le français a beaucoup d'aigus, de nasal et tout ça, et c'est plus difficile à faire sonner, je trouve, que l'anglais avec les diphtongues et tout ça. On peut faire des notes vraiment longues, puissantes, et vraiment, je pense que je préfère chanter en anglais.
Du coup, Léna, si une personne devait découvrir ton univers, quel titre lui dirais-tu d'écouter?
Alors, c'est pas évident parce que du coup, le deuxième album est vraiment différent. Je sais pas si je dois dire un morceau du premier ou du deuxième, quoi.
Qu'est-ce que ton
Mais ça change.
choix, ta première idée qui te viendrait comme ça si on te
Ah bah,
dit...
ah bah si. Bah, y a un titre, mais du coup, il est pas sorti, donc là, les gens pourraient pas l'écouter. Mais c'est Animals, qui est sur le deuxième album. Mais je trouve que du coup, il fait un bon lien entre les deux albums. Il y a un côté bien 60s et tout ça, mais il y a aussi ce côté un peu tropical. Je chante en anglais. Ouais, mais du coup, les gens pourront pas l'écouter là si je dis ça maintenant. Il faudra attendre avril. Non, mais sinon, je dirais aux gens de l'écouter Kill the King et En Décime, et comme ça, ils auront vraiment le panel des deux albums. Voilà.
Des prochaines dates de représentation où l'on peut te suivre, soit dans la région ou ailleurs.
Pour l'instant, il y a le 22 octobre donc à Tour de Chauffe à Tourcoing et après on joue le 12 novembre au Théâtre de Poche à Béthune et ensuite faudra attendre, ce sera plus autour de la sortie d'album au printemps prochain qu'il y aura à nouveau des dates. Ouais, voilà, c'est ça.
Pour découvrir l'univers de Léna Deluxe et ne rien rater de son actualité, rendez-vous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Côté musique, en attendant la sortie de son prochain album Santai au printemps prochain, ses compositions sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Un reportage réalisé par Mélanie Berthe pour RPL Radio.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.